pour le secteur. h 32 sur la première, place au débat des décodeurs. Marie-Van Kutsem avec un focus ce matin sur une plateforme qui fait partie intégrante de nos vies, qui a très certainement modifié nos vies même, notre rapport au savoir, à la mémoire. J'ai nommé Wikipédia. Wikipédia qui fête aujourd'hui, Marie, ses 20 ans.
Et oui, 15 janvier 2001, deux Américains, Jimmy Wales et Larry Sanger, lancent la célèbre encyclopédie en ligne. Premier article publié ce jour-là, un simple « Hello World ». La communauté, au départ, est toute petite, mais l'engouement est fort. Il faut dire que le projet est ambitieux. Consigner tout le savoir de l'humanité sur le site de manière collaborative. Les attentats du 11 septembre vont donner un vrai coup d'accélérateur, comme l'explique Jimmy Wales dans le documentaire de Lorenza Castella et Jascha Hanover, Il était une fois Wikipédia.
Ce jour-là, la communauté s'est rassemblée sur Wikipédia pour écrire sur le World Trade Center et ses architectes, sur les compagnies aériennes et les différents groupes terroristes qui avaient pu participer ou pas aux attaques. Les gens ont essayé de collecter des données. Je me suis dit que c'était intéressant et que ça comblait un vide dans le traitement des informations. Il y a les nouvelles du jour et elles sont importantes, mais là, on est plutôt dans une démarche réflexive qui s'inscrit dans une perspective longue. Que signifie tel événement? Comment l'expliquer historiquement? Comment s'intègre-t-il dans le monde?
Au bout d'un an d'existence, il y a déjà sur Wikipédia 20 000 articles en ligne.
Et aujourd'hui, 20 ans après, nous en sommes à 58 millions d'articles.
Oui, dans 300 langues différentes, l'anglais étant évidemment en tête. Les trois sujets les plus consultés sont d'ailleurs la page des États-Unis, celle sur Donald Trump et celle sur Barack Obama. 250 000 bénévoles rédigent des articles chaque mois. Wikipédia est devenu l'un des 10 sites les plus consultés au monde. Et sur le Wikipédia en français, il y a 4 millions de visiteurs uniques par jour.
Oui, et avec l'agrandissement de cette communauté Wikipédia, des questions ont commencé à se poser, Marie.
Oui, en premier lieu, celle de la fiabilité des informations qui s'y trouvent. Jules est un administrateur du site, il est français, il explique les critères d'admissibilité des articles.
Le sujet doit avoir fait l'objet soit d'une entrée dans une encyclopédie classique, soit d'avoir fait l'objet de deux articles dans la presse nationale ou internationale. De fait, ça limite la notoriété, mais ça c'est un choix des bénévoles. Wikipédia n'est pas là pour créer la notoriété. Wikipédia est là pour constater la notoriété quand elle existe.
Voilà, une interview extraite de nouveau de ce documentaire. Il est fait une fois à Wikipédia, je vous le recommande d'ailleurs. Il est disponible sur Arte TV gratuitement. Alors au-delà de ça, le contrôle qualité, une fois l'article rédigé, est assez rigoureux. Relecture, débat entre contributeurs, sourçage indispensable. Tout cela vient participer à une certaine solidité des informations diffusées. Alors, évidemment, on y a recours très souvent. Chercher rapidement une info, se renseigner le soir dans le fauteuil sur la série qu'on est en train de regarder. Faire un travail pour l'école, pour les plus jeunes. On va se demander aujourd'hui si Wikipédia, si le web en général, ont modifié notre rapport au savoir, à l'apprentissage, à la mémoire, et si Wikipédia est devenu, en quelque sorte, le disque dur externe de notre cerveau.
Avec deux invités pour parler de ce sujet ce matin. Bonjour Manon Brulard.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'école de programmation Acure Future et vous organisez des wikitons, des marathons d'écriture d'articles sur des femmes, sur Wikipédia, que vous connaissez donc très bien. Et par Skype, deuxième invité, Natacha Duroisin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Mons, spécialiste en neuroéducation et en psychologie des apprentissages scolaires. On va évidemment fouiller notre cerveau avec vous. Peut-être première question à vous, Manon Brulard. Est-ce que pour vous, Wikipédia est devenu en quelque sorte notre disque dur externe, sorte de source incontournable dans nos vies aujourd'hui ?
Mais je crois qu'il y a une conclusion qui peut être tirée, c'est qu'en 20 ans, Wikipédia a réussi à changer énormément de choses, changer la manière dont on perçoit l'information et la manière dont on va chercher l'information. Qui ne connaît pas Wikipédia? Et donc ça a été vraiment une révolution dans la publication à l'époque et ça reste une révolution actuellement.
Oui, on ne sait plus d'ailleurs comment on faisait avant Wikipédia finalement, quand on devait trouver une information, quand on cherchait par exemple une date de naissance, une date de mort, un titre de musique. Comment est-ce qu'on faisait, Manon Brulard, avant Wikipédia?
Est-ce qu'on se souvient comment on faisait sans Internet.
Ouais.
Voilà, c'est ça la grande question. Et puis surtout avec le grand mouvement de l'ouvert sur Internet et que Wikipédia à l'époque s'est inscrit, donc l'open source était sorti, le terme opportun a reçu beaucoup de visibilité en 99 et donc là on est en 2001 pour la création de Wikipédia. Et puis il y a eu par exemple le Wikipédia des cartes, OpenStreetMap qui est arrivé en 2004. Et puis on a eu Creative Commons, on a eu Open Knowledge, etc. Donc ça s'inscrit vraiment dans un mouvement global d'informations libres et partagées.
Mm-hmm. Natacha Duroisin, vous qui étudiez la façon dont fonctionne nos petits neurones face au savoir. Je reviens sur cette expression disque dur externe de nos cerveaux. Est-ce que ça vous semble bien convenir au web en général, ce grand puits d'informations auquel on a recours très régulièrement ?
Et alors, l'analogie est effectivement intéressante, oui, parce que l'individu, par le recours au web, est capable de faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire. Il doit faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire. C'est vraiment une condition sine qua non. Quand on cherche donc de l'information, il faut pouvoir sélectionner les bonnes informations et se souvenir surtout de l'endroit où ces informations sont disponibles. Et donc, à cet effet, on se dit, tiens, le web, en fait, altère nos capacités de mémorisation. Il fait qu'on mémorise moins d'informations. En fait, les informations que nous mémorisons sont différentes. Mm-hmm. Il ne s'agit plus d'informations de type déclarative, mais plutôt des informations plus visuelles. On retient, tiens, j'ai vu cette information-là quelque part, et donc la manière aussi d'y arriver.
Mm-hmm. Manon Brulard, on a parlé des débuts très utopistes de Wikipédia, consigner tout le savoir de l'humanité de façon horizontale, sans élite qui décide de ce qu'est le savoir. Est-ce qu'on peut dire que Wikipédia est une grande réalisation positive du web ? Est-ce que c'est un pari réussi au fond ?
Oui, bon, après, il y a évidemment, pour chaque plateforme de cette ampleur-là, il va y avoir des questions sous-jacentes dont on peut discuter après, mais ça a clairement changé la manière dont on perçoit l'information, et ça a été révolutionnaire, je l'ai dit, et ça continue à l'être, de voir l'implication des éditeurs et des éditrices sur la plateforme. C'est hallucinant de voir, en fait, que toute personne peut aller écrire aussi l'histoire et aller s'impliquer pour écrire l'encyclopédie.
On est enfin dans quelque chose de positif, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à pointer les dérives du web, les réseaux sociaux et tous leurs problèmes. Ici, on est quand même dans quelque chose de vraiment très très positif pour
vous. Oui, donc c'est vraiment le mouvement ouvert. Hein. Donc, c'est un mouvement qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a commencé plus ou moins vers 99-2000. Et c'était vraiment la manière dont le web a été inventé, en fait. L'invention du World Wide Web, du WWW par Tim Berners-Lee, c'était vraiment ça l'idée. C'était vraiment d'avoir une décentralisation et d'avoir un partage de connaissances. La connaissance pour le plus grand nombre et pas pour le plus petit nombre. Et donc là, on est vraiment dans ce cas-là. Et je vous invite aussi à aller visiter OpenStreetMap, qui est le Wikipédia Descartes, c'est exactement la même idée. On va aller ensemble collaborer et on a encore beaucoup de communautés qui sont actives sur des questions comme Wikipédia, OpenStreetMap. Mmh.
Natacha Duroisin, est-ce que le fait de faire appel régulièrement à Wikipédia ou au web, d'avoir intégré cela à nos modes de consommation de l'information, est-ce que ça a très concrètement modifié notre cerveau, nos circuits neuronaux ?
Alors, il faut savoir que tout apprentissage et n'importe quel apprentissage modifie notre cerveau et donc nos circuits neuronaux à l'intérieur de notre cerveau. Et donc, oui, de ce point de vue, on peut dire que notre cerveau a aussi évolué grâce à l'utilisation du web.
Est-ce que le smartphone, le web ont tué nos capacités de concentration ? On dit souvent qu'aujourd'hui, on ne peut plus se concentrer pendant quelques heures sur un même sujet parce qu'on nous incite à zapper continuellement. Ça, c'est confirmé par la science, par la modification de nos connexions neuronales, ça ?
Alors, ce qui est confirmé par la science à l'heure actuelle, donc c'est qu'effectivement, quand on est face à une page web, il y a un flux d'informations important à gérer. Il y a aussi tout ce qui gravite autour de cela, des notifications Facebook, Twitter, etc. Et donc, le cerveau, nous avons développé d'autres facultés, à savoir notamment l'inhibition, le fait de contrôler ses capacités et se dire non, je n'irai pas voir telle chose pour me concentrer sur telle information. À côté de ça, on a aussi développé de plus fortes capacités de flexibilité, flexibilité cognitive, flexibilité attentionnelle notamment. Donc voilà, effectivement, parfois on peut se dire qu'on mémorise moins certaines informations qu'auparavant, mais on a développé d'autres capacités, d'autres fonctions aussi exécutives.
Mmh. Alors parmi ces autres fonctions qu'on a pu développer, Manon Brulard, on parle souvent du concept d'intelligence collective. La vigilance par les pairs et la collaboration sont vraiment des valeurs essentielles au fonctionnement de Wikipédia.
Mmh. Oui, donc sur Wikipédia, quand vous allez créer un nouvel article, vous avez des éditeurs et éditrices plus expérimentés qui font des patrouilles et qui vont aller vérifier, qui vont directement aller vérifier l'information que vous avez ajoutée pour être sûr que ben, le contenu va être correct et tout doit être sourcé sur Wikipédia. Et donc ça, évidemment, l'intelligence collective, la manière de travailler ensemble et la manière dont c'est fait, ben, ça fonctionne extrêmement bien parce que du coup, chaque Wikipédia fonctionne en langue différente, donc les règles du Wikipédia francophone ne vont pas être les mêmes que l'anglophone, donc ça c'est important. Savoir. Mais du coup, les articles, par exemple, sur le Wikipédia francophone, il y a quand même ils sont énormément qualitatifs parce qu'ils ont été vérifiés, revérifiés par la communauté.
Donc, vous diriez aujourd'hui que Wikipédia est fiable parce qu'on se souvient qu'au début, il n'était pas question hein, de faire référence à Wikipédia. C'était même une référence qu'on devait fuir si on voulait des infos vérifiées. C'est plus le cas aujourd'hui ?
Mais ça, c'est pas à moi de répondre. Je crois que la communauté Wikipédia dira jamais que c'est à 100%, tout est à 100% vrai. Mais par contre, moi, je me souviens quand j'étais en école secondaire, on me disait surtout pas utiliser Wikipédia comme source, mais par contre, maintenant, si je vais aller chercher de l'information, je vais voir que sur les pages, la plupart du temps, en tout cas, c'est vrai et c'est vérifié. Le travail a été effectué de collaboration.
Mmh. Surtout qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, par exemple, des encyclopédies qui étaient rédigées par des personnes, finalement, des nombres très réduits de personnes, pouvaient également avoir leur biais. On peut penser, par exemple, à tout ce qui est racisme, etc. On était quand même aussi sur des propos qui étaient questionnables.
Oui, et ce qui est encore le cas aujourd'hui. Hein. Sur Go 10 ans, Wikipédia, ils ont fait une grande analyse de données. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 90% des éditeurs qui étaient éditeurs, qui étaient hommes et qui étaient souvent blancs, universitaires, hétérosexuels, etc. Donc évidemment, si on a 90% des personnes qui vont ajouter de l'information qui ne représente qu'une partie de la population, le contenu résultant va être biaisé.
Mmh. Alors on parlait, Natacha Duroisin, il y a un instant, de Manon Boulard qui ne pouvait pas citer Wikipédia, je m'en souviens aussi d'ailleurs, hein, à l'école, quand on faisait des exposés. On ne peut pas s'empêcher, en entendant tout cela, bien entendu, de réfléchir à la manière dont on apprend à l'école. Apprendre par cœur, par exemple, quand on a Internet, est-ce que ça encore du sens aujourd'hui?
Alors, apprendre, en fait, tout dépend de ce qu'on apprend. Et effectivement, il faut se poser cette question-là. La mémorisation de certains repères est fondamentale. Et il faut que ces éléments soient vraiment intégrés dans notre cerveau et que l'on n'aille pas à chaque fois sur Internet voir quelle est la date de la Révolution française. Non, ça doit être direct. Ça doit nous arriver comme un automatisme dans notre tête. C'est pareil pour l'étape de multiplication. Un exemple sûrement plus à propos pour nos élèves, il faut savoir qu'il est important que directement l'enfant à l'école se dise 3 fois 7, ça fait ça fait 21,
tel résultat,
bref.
Ouais.
Voilà. Et non pas aller voir sur Internet ou prendre la calculatrice, parce qu'on parle de tout autre support qui permet d'obtenir l'information. Donc, la structure du temps, la structure de l'espace, notamment, sont des éléments vraiment importants en matière de mémorisation, en matière d'apprentissage. Ça permet de libérer de la place dans notre cortex, notamment frontal, afin de procéder à d'autres apprentissages.
Ouais, mais est-ce que vous êtes optimiste, Natacha Duroisin ? Est-ce que le web, est-ce que Wikipédia vont nous rendre plus malins ou moins intelligents, à votre avis ?
Alors, vous savez, la question s'est posée au tout début avec l'écriture, bien avant, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein, Socrate disait que la pratique de l'écriture va nous rendre tous plus bêtes parce qu'on ne devra plus mémoriser. En gros, c'était ça le message. Au contraire, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu développer la mémorisation au fur et à mesure du temps. C'est juste que notre cerveau, a évolué avec l'environnement, avec la technologie.
Mmh. Et vous, Manon Boulard, puisqu'on parle de l'avenir, c'est vrai qu'on a quand même deux forces qui sont en tension sur Internet. On a d'un côté l'open source, dont on a beaucoup parlé avec Wikipédia. Il y a quand même le modèle payant aussi qui prend énormément de place, la publicité ciblée, la monétisation aussi des plateformes, etc. Vous l'envisagez comment, l'avenir de l'information sur le web, plutôt positivement ou vous avez des doutes ?
Mais je crois qu'il faut toujours rester alerte par rapport à l'avenir du web, qu'évidemment, il y a les GAFA qui utilisent le nouvel or qui est utilisé, c'est vraiment les données. Donc, rien n'est gratuit sur le web. Hein, quand on donne ses données, en fait, on paye. Et que c'est plutôt la question du mouvement open source, c'est de, en fait, on peut, avec Internet, nous, en tant que citoyens et citoyennes, aller créer une valeur pour le reste des communautés. Et ça, c'est hyper important, et que les personnes puissent se rendre compte que vous pouvez simplement aller créer un compte sur Wikipédia aujourd'hui et commencer à éditer.
Vous savez ce qu'on dit, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Merci beaucoup Manon Brulard, merci. Et merci Natacha Duroisin, Manon Brulard de l'école de programmation Acure Future, et Natacha Duroisin, spécialiste en neuroéducation et en psychologie des apprentissages scolaires à l'Université de Mons, hein, sur la façon dont Wikipédia, qui a 20 ans aujourd'hui, a transformé notre accès à la connaissance et notre cerveau. Dans quelques instants, on va décoder la communication autour de la campagne de vaccination en Belgique. Ce sera avec Frédéric Brébant. À tout de suite. Sans oublier Jean-Marc Strel, bien sûr, qui vous accompagne sur les routes ce matin. C'est toujours glissant, Jean-Marc ?
Oui, mais les nouvelles ne sont pas négatives, contrairement aux températures, bien sûr, parce que la présence de verglas est bel et bien actée, mais ça se passe bien. Par exemple, sur le ring de Bruxelles, entre Terveren et Lyonnard, l'accident est terminé, même s'il n'y avait pas de verglas là-bas. Par contre, sur le 411 Namur-Luxembourg, en hauteur d'Ondelange, il y a toujours 3 km de file et 15 minutes perdues en direction de Luxembourg. Un accident qui pose problème sur la 54 Charles. Alors, à Nivelles, hauteur de Gosselies, il y a 2 km de file en direction de Nivelles. Et puis, des ralentissements suite à des travaux sur le 42 Mons. Tournai à hauteur de Caen en direction de Tournai. Vous êtes ralenti sur 4 km plus ou moins.
En SUV compact et en design fluide, Skoda Kamiq ne fait plus de compromis.
Matin première.